Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bienvenue à cet épisode de Francophone. Aujourd'hui, on va parler d'acharnement thérapeutique. Mon nom est Mathieu Desgroseilliers, je suis pharmacien en soins critiques, je travaille à l'hôpital Honoré-Mercier du 6 Montérégie Est. Je travaille en soins critiques, à l'urgence, aux soins intensifs ainsi qu'en réanimation. Aujourd'hui, je suis accompagné de...
Mathieu Moreau, je suis un médecin de famille qui travaille aux soins intensifs et à l'urgence de l'hôpital Fleury à Montréal.
Et Julie Cousineau, je suis avocate et professeure adjointe de clinique au département de médecine familiale et médecine d'urgence de l'Université de Montréal.
Donc aujourd'hui, on va parler d'acharnement thérapeutique. On a vu passer dans les dernières années des cas dans l'actualité, dont le cas de Rassouli en 2013, qui s'est rendu jusqu'à la Cour suprême. Dans le fond, j'aimerais avoir un petit peu votre opinion par rapport à ce cas-là.
Bon, on peut peut-être commencer par résumer le cas d'un point de vue médical. Donc, M. Rassouli est un patient qui a été opéré pour une tumeur bénigne au cerveau, qui malheureusement s'est compliqué d'une infection qui l'a laissé dans un état neurovégétatif. Les médecins, à ce moment-là, voulaient arrêter les traitements, considérant que malheureusement, il n'y avait plus rien à faire, que son état n'allait pas s'améliorer. La famille, à ce moment-là, contestait le principe. Ils ne voulaient pas qu'on retire les traitements. Donc, la famille a obtenu finalement qu'on ne retire pas les traitements. Il y a eu plusieurs jugements qui ont été amenés par les médecins. Puis ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Il faut comprendre que pendant ce temps-là, la classification de l'état neurovégétatif de M. Rassouli a été transformée en état de conscience minimale. Mais ultimement, ça ne changeait pas un peu l'opinion des médecins qu'il y avait. Ce que les médecins disaient... concrètement, là, c'était que en Ontario, il y a des particularités législatives, mais qu'ils considéraient que le retrait de soins ne devait pas être considéré comme un traitement.
En fait, ce que voulait l'équipe médicale, c'était de savoir s'ils pouvaient retirer unilatéralement le soin de maintien de la vie de M. Rassouli sans avoir à obtenir le consentement de la famille. La Cour suprême du Canada, en fait, a renvoyé la décision devant une instance ontarienne qui visait justement à décider si on pouvait passer outre le consentement ou le refus de cesser des soins d'une famille. Donc, qu'est-ce qui découle de cette affaire-là pour le Canada? C'est qu'il y a un statu quo qui a été maintenu. On s'entend de manière, même si c'est une affaire ontarienne, on s'entend pour dire que ça prend le consentement de la famille pour pouvoir cesser des traitements une fois qu'ils ont été entrepris, parce que ça se distingue des traitements qui n'ont jamais été entrepris. Mais la façon dont ça va se faire pour cesser ses soins, malgré l'exigence de la famille, ça va varier d'une province à l'autre.
Excellent, ça fait, je pense, un bon résumé du cas Rassouli. Il y a eu aussi deux cas récents qui remettent en question la notion de mort neurologique. Voulez-vous nous en parler un petit peu plus?
Oui, donc en 2017, il y a eu deux cas, encore une fois, en Ontario. Comme je disais, l'action se passe en Ontario, faut croire. Donc, il y a eu deux cas en 2017 en Ontario de jeunes patients dans la vingtaine qui ont été déclarés en mort neurologique, puis que la notion de mort neurologique a été contestée par la famille, par les mandataires. Et donc, les deux cas ont été devant les tribunaux. Il y a un des deux cas qui concerne une jeune femme qui s'appelle Takisha Mekiti, qui s'est rendue jusqu'en Cour supérieure de l'Ontario en juin 2018. Il y a eu un jugement donc, de la Cour supérieure en Ontario. Puis, sans rentrer trop dans le cas, donc, Mme Mekiti était une patiente qui a fait une overdose et qui, là, ça l'a laissée dans un état de mort neurologique. La particularité de ce cas-là, c'est qu'elle avait encore des réflexes qui étaient très complexes au niveau spinal. Et donc, la famille a remis en question plusieurs notions, puis bon, j'en prends un peu les principales, mais une des notions, c'était de dire que si jamais, que comme elle avait des réflexes qui, pour eux, étaient plus des réactions à la douleur ou au stimulus extérieur, elle ne pouvait pas être déclarée en mort neurologique. Il y avait aussi la question de comme la notion de mort neurologique ne correspondait pas à ses valeurs chrétiennes, à ce moment-là, elle ne ça respectait pas la Charte canadienne des droits et libertés. Principalement, là, ces deux-là, sans vouloir rentrer trop dans les détails techniques des autres affirmations de la famille, mais c'était un cas particulier, comme je disais, parce que les mouvements étaient complexes. Puis c'est très rare qu'on ait des patients qui sont maintenus dans un état de mort neurologique aussi longtemps. Et surtout qu'avec nos techniques de réanimation qui sont de plus en plus efficaces, puis donc on était capable de nourrir la moelle épinière. Et c'est une des hypothèses, parce que ça demande des hypothèses, qui explique pourquoi les mouvements complexes ont été observés aussi longtemps. Concernant un peu plus la question de est-ce que ça viole la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge, en essence, a dit que comme la patiente était en mort neurologique et que la mort neurologique faisait en sorte qu'elle n'était plus une personne, à ce moment-là, elle ne pouvait plus invoquer la Charte canadienne des droits et libertés pour elle-même, mais enfin, on ne pouvait pas l'invoquer pour elle, puisqu'elle n'était plus une personne et que la charte ne s'applique qu'aux personnes. Donc, c'est un petit peu l'essentiel du jugement. Enfin, c'est ce qui est sorti un peu dans les médias, mais le jugement est un peu plus complexe que ça. Puis le juge parle aussi des implications financières, des implications d'incertitude légale qu'une définition un peu personnalisée de la mort pourrait avoir si on reconnaissait pas la notion de mort neurologique. Puis une des phrases qui est, je crois, la plus marquante du jugement, c'était de dire que la notion de mort neurologique est un jugement médical. Est un diagnostic médical. Et donc, la notion de diagnostic médical est quand même importante. Et donc, ce n'est pas aux tribunaux de dire qu'est-ce qui constitue des critères de mort neurologique, mais bien plus à la science médicale.
Parce que le droit lui-même ne définit pas ce qu'est la mort. Le droit va définir, va établir le début de la vie, va établir, en tout cas, du moins en droit canadien, et surtout mettre ça plus à la sauce droit québécois, on pourrait dire notre législateur est défini qu'est-ce qui est le début de la vie, qu'est-ce qui est la fin de la vie, pour dire que c'est le début et la fin de la personne humaine sur le plan légal. On va nous mettre quelques critères très minimes pour dire que le début de la vie va être une naissance dite vivant et viable. Et pour la fin de vie, on va nous parler en jurisprudence québécoise de la mort cérébrale complète. Donc, à ce moment-là, et ça revient un peu à ce que Mathieu dit, que la détermination de ce qui est la mort va devenir un jugement médical parce que c'est pas le juge ou encore le législateur ou le tribunal qui va venir décréter quelle est exactement quand est-ce qu'une personne va être décédée sur le plan scientifique. Il peut mettre une balise très générale de dire que ça peut être la mort cérébrale complète, mais à partir de ça, qu'est-ce que c'est? Ça dépend de l'état des recherches, ça dépend du jugement médical qui est posé par le médecin lui-même.
C'est vraiment très intéressant, très instructif. Selon vous, quel serait le message clé? Qu'est-ce qu'on pourrait retirer pour nos auditeurs de ces cas-là?
En fait, il y a plusieurs choses qu'on peut retirer. Par exemple, de l'affaire Rassouli par rapport au premier cas dont on a parlé, c'est qu'il ne peut pas y avoir de retrait unilatéral des soins, notamment quand les soins ont été entrepris. Ça va être très différent d'un soin qui n'a jamais été entrepris, qui dépend à ce moment-là du jugement de la personne de décider de l'offrir ou non. Donc, dans l'offre de service qui va être fait par le médecin, mais de cesser un traitement unilatéralement, ça va susciter beaucoup d'angoisse chez la famille. Et à ce moment-là, au-delà de la décision elle-même de décider de se demander si on peut retirer un soin unilatéralement, la question, je pense, qui est importante, c'est de se demander comment on va intervenir auprès de la famille qui demande le maintien de ces soins-là plutôt que de juste dire « est-ce que je peux y mettre un terme de façon unilatérale? » Et c'est à ce moment-là que toute la discussion avec la famille qui demande un maintien de soins que nous, on considère comme n'étant plus bénéfique pour le parent. Pour le parent, par exemple, si on est un enfant, tout le processus communicationnel de partenariat avec la famille où on va essayer d'identifier qu'est-ce qui est à l'origine de cette demande-là de maintien des soins alors que nous, on voudrait y mettre un terme unilatéralement, bien, de faire cette discussion-là va permettre d'aller beaucoup plus loin que juste de se demander si, en fait, on peut cesser unilatéralement le soin.
Puis, je pense que qu'est-ce qu'on peut retenir plus des deux cas ontariens, là, dont j'ai évoqué la femme Equity, c'est de dire que le diagnostic de mort est déterminée par des critères médicaux. Donc, la détermination de la mort, autrement dit, est déterminée par des critères médicaux et qu'il n'y a pas de législation là, fédérale et il n'y en a pas au Québec non plus là, qui détermine spécifiquement c'est quoi.
Merci, c'était vraiment très intéressant. Moi, ce que j'en retire, dans le fond, c'est qu'il faut prendre le temps de parler avec les familles pour essayer de voir qu'est-ce que le patient voulait, qu'est-ce que le patient n'accepterait pas. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup. J'en retire vraiment encore une fois que la communication reste essentielle. Merci beaucoup d'être venu.
Bien, merci beaucoup de l'invitation.
Ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup.
C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre semaine après semaine dans ce projet de fou. Si vous aimez, merci de partager avec vos amis et collègues qui sont aussi crinqués que vous autres en soins intensifs. Venez poursuivre la conversation avec nous sur Twitter et Facebook et les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts, Android, YouTube, Spotify et autres. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.